moving fingers proud, hands down, baby, it's safe, just say.
Et je vous accueille donc pour la rentrée de la 27e saison de Longtemps, je me suis couché de bonne heure, une émission créée par l'ami Francis Gavel et que j'ai l'honneur, moi, Thomas Fouet, enchanté d'animer à ses côtés depuis quelques années déjà. Francis, aujourd'hui, n'est pas des nôtres, mais il nous écoute et il sera de retour, je n'en doute pas, le mois prochain pour se mêler au débat et vous régaler de sa programmation musicale. La musique, parlons-en. Je vous le disais, Francis n'est pas des nôtres ce mois-ci, donc pas d'album du mois. Juste une programmation tenue par l'arbitraire de mes goûts du moment, je m'en excuse. À l'instant, nous écoutions donc Work Today and Tomorrow de Grace Cummings, un morceau extrait de son tout dernier album Raymona, disponible depuis quelques mois. Mais venons-en au cinéma, il paraît qu'on est là pour ça, avec moi aujourd'hui et autour de cette belle table ovale tachetée de petits points délicats. Devait se trouver Marine Quinchon et Florent Boutet de la rédaction des fiches du cinéma. Malheureusement, vous savez ce que c'est, les aléas du direct, ils ont eu ce qu'on appelle un impondérable. Et ils ne seront donc pas présents. J'en remercie donc d'autant plus Marie-Pauline Mollaret de la rédaction d'Écran Noir d'être avec moi aujourd'hui, Marie-Pauline Morlaret, donc, avec laquelle, puis sous la direction de laquelle, j'ai eu par ailleurs l'honneur de travailler au comité court-métrage de la Semaine de la Critique. Je crois que nous y avons fait du bon travail, qui d'ailleurs prétendrait le contraire. Bonjour Marie-Pauline.
Bonjour Thomas.
Nous sommes donc le samedi 27 septembre 2024. Au cas où vous nous écouteriez depuis le futur, Arsenal est 4e de Première Ligue, Amiens 8e de Ligue 2 et Sochaux 9e de National. Voilà, chères auditrices, chers auditeurs, vous savez tout ce qu'il y a à savoir qui procure de la joie et de l'élévation, excepté pour les arts et lettres élargis aux activités mécaniques. Et justement, nous y venons avec le premier film au programme de cette table ronde critique, qui va plutôt ressembler, soyons honnêtes, Marie-Pauline, à un tandem. Voilà. Et où je vais généreusement t'octroyer la parole. 36 ans après le premier volet, Tim Burton donne suite à Beetlejuice. D'abord fort timide et performative, cette suite ne trouve son ton fantasque que dans sa dernière demi-heure, nous dit Michael Ganham dans Les Fiches du cinéma. C'est un film que j'ai évoqué dans une émission Amis et qui vient d'être lancé sur Microciné, la chaîne YouTube de Samir Arjoum, et dont je vous recommande la fréquentation assidue. J'y postulais que Burton avait peut-être réglé l'équation de son cinéma avec Big Fish, son très beau film de 2004, en faisant tomber le rideau en quelque sorte sur sa petite fabrique de freaks. Je me disais aussi, en y réfléchissant, puisque cela m'arrive, que le cinéma de Burton, auquel par ailleurs je suis attaché, avait sans doute inspiré quantité de vocations de cinéphiles, mais en comparaison avec d'autres auteurs, très peu de vocations de cinéaste. C'est une intuition et elle est peut-être fausse. Je ne sais pas ce que tu en feras, Marie-Pauline. Rien, sans doute. Toujours est-il qu'il m'a semblé voir ici un regain de vitalité, notamment dans des scènes où Burton ne se préoccupe pas de raccrocher les wagons avec le film de 1988. Je pense entre autres à l'apparition de Monica Bellucci, que l'on sent motivée, je crois, par le seul plaisir pris à filmer son amoureuse. Si vous n'êtes pas familier des Page People, je précise donc que Burton et Bellucci sont en couple. Le sujet, en quelques mots. 36 ans après les événements de Beetlejuice, Lydia Dietz est devenue l'animatrice d'un talk show consacré au surnaturel. Après que sa fille Astrid, avec laquelle elle entretient des relations compliquées, a par accident ouvert un portail vers l'après-vie, elle se voit contrainte de faire appel à Beetlejuice. D'autres lignes narratives se mêlent à celle-ci. Je vous en fais l'économie. Libre à toi, si tu le souhaites, Marie-Pauline, de les évoquer. Au casting et du premier volet, on retrouve ici Winona Ryder, Michael Keaton, dans le rôle-titre toujours, et Catherine O'Hara. On a trouvé en revanche une façon de composer avec l'absence de Jeffrey Jones, persona non grata à Hollywood depuis sa condamnation en 2003 pour agression sur mineur. À leur côté, Jenna Ortega, la Scream Queen, comme on dit, des derniers Scream en date, mais aussi la Mercredi Adams de la série Netflix de Burton, ainsi que Justin Theroux, Willem Dafoe et Monica Bellucci, ainsi que je vous le disais. Beetlejuice, puisque c'est ainsi que ça s'appelle de Tim Burton, c'est donc d'ores et déjà en salle. Et tu l'as fort généreusement rattrapé hier soir, Marie-Pauline, afin d'être au complet sur ce programme. Et je t'en remercie, plutôt deux fois qu'une. Peux-tu nous en dire un mot ?
Mais non, mais je te remercie, Thomas, de m'avoir du coup incité à aller voir le film. Je pense que je serais potentiellement passé à côté, parce que c'est vrai que Burton, ces dernières années, m'avait un peu...
Ouais, c'est une désaffection qui est un petit peu partagée par tout un pan de la cinéphilie, y compris parmi celles et ceux qui l'ont chéri dans leur adolescence, et c'est mon cas.
Et c'est mon cas aussi, et c'est vrai que j'ai entendu beaucoup dire sur ce film, effectivement, comme tu le disais, qu'il y avait un regain de vitalité, qu'on l'avait retrouvé, tout ça, donc j'allais dans des bonnes dispositions. Bon, voilà, je pense que tout le monde a été très généreux avec le film, parce qu'effectivement, c'est probablement moins raté que les derniers, enfin, je sais pas, parce que moi, j'ai un peu lâché l'affaire, donc j'ai même pas vu, je pense, ces derniers films. Mais vraiment, la question que je me suis posée, c'est est-ce qu'on avait besoin de cette suite ? C'est une question qu'on peut se poser hyper souvent sur les suites de films qui ont été, ou des films cultes, ou un peu des films à succès. Je suis pas complètement persuadée qu'on en avait besoin. Après, le film est sympathique. C'est jamais très bon signe quand on dit d'un film qu'il est sympathique. C'est-à-dire que moi, j'ai pas d'énormes reproches à lui faire. Je le trouve pas honteux, raté, insupportable. Je le trouve pas non plus extraordinairement réussi. Je pense que tu parlais de Monica Bellucci. Elle a un très beau personnage, mais malheureusement, le scénario en fait absolument rien. Et ça, c'est quand même une grosse déception pour moi, parce que j'aime beaucoup la manière dont le personnage se construit au début du film.
Qui est, je le disais sur la chaîne de Samir, du coup je recycle un peu, mais ce qui me touchait beaucoup là-dedans, c'est que j'avais le sentiment, quelquefois au cours des 10 ou 15 dernières années, que Burton avait un petit peu perdu son cinéma, y compris en termes de mise en scène, de montage, de découpage, et que là, à la faveur d'une scène dans laquelle il donnait à voir la couture faite par elle-même par le personnage de Bellucci, puisque voilà, elle a été découpée voici quelques siècles par Beetlejuice, je crois que c'est dit ou sous-entendu tout du moins par le film, et donc les différentes parties de son corps, c'est la créature de Frankenstein évidemment, sont dans des boîtes séparées et elle se recoue elle-même, ou plutôt elle s'agrafe, et je trouvais qu'entre la façon dont le corps trouvait à se reconstituer et la façon dont les plans eux-mêmes se montaient, se reconstituaient, je trouvais qu'il y avait entre l'opération de couture l'écriture du personnage et l'opération de montage dans le film quelque chose d'un peu plus vif et d'un peu plus efficace en tout cas que dans les précédents films de Burton.
Oui, c'est un passage vraiment inspiré et je trouve que c'est très prometteur parce que le personnage du coup intrigue beaucoup, elle a quelque chose de très... Oui, de très fort dans la manière, donc comme tu le dis, en plus, sachant voilà, que c'est Monica Bellucci, c'est quand même pas anodin non plus de la présenter comme ça, plus ou moins défigurée, etc. Je trouvais ça très beau, et malheureusement, le personnage, il hante le film, c'est une espèce de fantôme qu'on voit comme ça par moment, et qui est évacué très très vite. Et c'est globalement le reproche que je fais au film, c'est que je trouve qu'il évacue très très vite tous ses enjeux, tous ses sous-intrigues et tout ça.
Parce qu'il y a beaucoup d'intrigues, effectivement.
Oui, il y a pas mal d'intrigues voilà, qui s'imbriquent les unes dans les autres, comme pour venir un peu combler quelque chose. Je sais pas quoi, peut-être un peu un manque de souffle ou un manque de force de l'intrigue principale. Mais alors c'est expédié en 5 minutes à la fin. Moi j'étais vraiment très très étonnée de voir cette vitesse avec laquelle, et notamment le personnage de Monica Bellucci, il est vraiment expédié, c'est le cas de le dire. Voilà, elle a même pas une grande scène de bravoure en fait. Mmh. Il y a beaucoup d'ellipses sur son personnage. Enfin voilà, j'ai trouvé ça vraiment dommage. Je trouve que c'est à l'image du film. Je trouve que c'est un film qui est un peu long à démarrer parce qu'il faut exposer la situation, faire des clins d'œil au film précédent. Vaguement raccrocher les wagons pour les spectateurs ou les spectatrices qui, comme moi, avaient un peu oublié malheureusement le premier film. Et ça commence à démarrer, comme tu le disais, quand on va voilà, dans l'au-delà. Là, tout à coup, on a vraiment l'univers de Burton, on a une petite galerie de personnages assez sympathiques, avec cette idée aussi de... qui est toute bête, mais cette idée de... Ben dans l'au-delà, on fait beaucoup la queue, on attend, on prend des tickets, et les guichetières sont pas très sympathiques.
Cette dimension du pastiche, voilà. De l'administration...
Enfin, c'est comme dans la vie, mais en pire, on a envie de dire, il faut beaucoup attendre, on n'a pas de passe-droit pour passer devant tout le monde, et voilà, et les trains partent à l'heure.
Et j'avais envie de te poser une petite question, car je sais que tu es par ailleurs, mais pas seulement, spécialiste du cinéma d'animation. Burton s'est confronté à l'animation non seulement dans ses films en prise de vue réelle, mais aussi dans un certain nombre de films. Alors, L'étrange Noël de Monsieur Jack, réalisé, il faut le rappeler, par Henry Selick, mais dont il avait imaginé l'univers. Il y a eu Les Noces funèbres un petit peu plus tard. Et là, justement, pour évacuer le personnage de Geoffrey Jones, Burton en passe par des petites séquences d'animation. Je voulais savoir comment tu te situais par rapport à ça.
Moi, j'ai trouvé l'idée assez chouette, en fait. J'ai bien aimé. Sur le coup, je me suis un peu demandé pourquoi il y avait de l'animation qui débarquait au milieu. Mais comme on est chez Burton, c'est pas non plus extraordinairement surprenant. Je trouve que c'est une manière assez intelligente, en fait, de gérer le problème. Et voilà, après, les séquences, elles sont pas... Elles n'ont rien de particulier, enfin, c'est pas de l'animation, c'est pas aussi joli que ce qu'il avait pu faire dans certains de ses films d'animation, mais j'ai trouvé que c'était une bonne manière, en fait, l'idée de la manière dont le personnage est mort et qui fait qu'on ne voit pas non plus son visage quand on le voit mort, c'est aussi, voilà, c'est des trucs que je trouve plutôt malins, pour le coup.
Eh bien, Beetlejuice, c'est donc d'ores et déjà en salle au cinéma. Et on en vient à la suite de cette évocation de l'actualité des sorties en salle. Le 8 mai 2024, et alors que quelques jours plus tôt, son nouveau film Les Graines du Figuier Sauvage avait été annoncé en compétition officielle au Festival de Cannes, le cinéaste iranien Mohammad Rasoulof était condamné à une peine de 8 ans de prison pour, je cite, « collusion contre la sécurité nationale ». Quelques jours plus tard, il parvenait à fuir l'Iran et à se réfugier en France. Il était donc présent à Cannes en mai dernier pour y défendre son film et recevoir le prix spécial du jury, prix de consolation pour certains, qu'il imaginait plus haut au palmarès. En quelques mots, nous sommes à Téhéran en 2022. Iman, fraîchement promu juge d'instruction au tribunal révolutionnaire, autant dire exécuteur des basses œuvres du pouvoir, exige de son épouse, Najmeh, et de leurs filles, Refzan et Sana, qu'elles fassent preuve, sécurité oblige, de la plus grande discrétion. En effet, à la suite de la mort de l'étudiante Jina Mahsa Amini, des émeutes ont éclaté dans le pays. Un jour, à la suite de la brutale répression policière, Sadaf, une amie de la fille aînée, grièvement blessée à l'œil, se réfugie chez elle. Est-ce qu'il faut que j'en raconte plus ? Allez, on va avancer encore un petit peu dans le récit. Un matin, l'arme de service d'Iman disparaît et celui-ci ne tarde pas à soupçonner ses filles. Et là, je m'arrête. Thriller paranoïaque en quasi huis clos, dans cette première partie du moins, que viennent éclairer des images réelles de la répression brutale des manifestations auxquelles on associe désormais le slogan « Femme, vie, liberté ». Le film est notamment un pamphlet contre le pouvoir patriarcal du régime iranien et se revendique comme tel, c'est du moins ainsi que je l'ai envisagé. Je rappelle qu'avant cela, Razoulov avait notamment signé « Un homme intègre et le diable n'existe pas » et que « Les graines du figuier sauvage » est d'ores et déjà en salle. À l'affiche, on retrouve Misak Zareh, Soheila Golestani, Massa Rostami et Setareh Maliki. Tu avais vu le film à Cannes, je crois, Marie-Pauline.
J'ai tout à fait vu le film à Cannes. Et c'était, comme tu le dis, en plus en fin de festival. Et le film était une sorte d'évidence que tout à coup, il se passait quelque chose dans cette compétition qui était évidemment d'une grande force en termes politiques. Le film est... Et c'est impossible de ne pas le regarder par rapport aux événements, par rapport à ce qui se passe en Iran. Je pense que Rasoulov, il a toujours eu ce regard acéré sur son pays, qu'il a toujours fait du cinéma assez politique. Et je pense que là, ce qu'il a fait, c'est vraiment un cran au-dessus, probablement, parce que le film est quand même d'une violence absolue. Il est tourné avec les moyens du bord, puisque Rasoulov était interdit de tourner. Donc, comme tu dis, il est quasiment en huis clos. On est enfermé dans un appartement, puis on est enfermé dans une maison de campagne. Donc, voilà, il n'a pas tellement le droit d'aller tourner ailleurs. Et en fait, c'est passionnant, parce que c'est vraiment la famille qui devient le creuset du système iranien, avec un symbolisme assez fort. Avec ce personnage du père qui représente effectivement le régime dans tout ce qu'il peut avoir de plus absolument absurde, en fait.
Alors qu'au tout début du film, il nous est présenté, alors non pas comme quelqu'un de fondamentalement sympathique, mais quelqu'un qui, en tout cas, a des états d'âme, des scrupules, qui s'inquiète ou semble s'inquiéter à l'idée d'envoyer à la décapitation ou à la pendaison des gens sans preuve, sans procès, sans autre forme de procès. Et puis on voit au fur et à mesure que le film avance que c'est pas si simple.
C'est pas si simple parce que c'est un homme qui appartient au système, comme une de ses filles lui dit, il fait partie du système, et à partir du moment où ce système semble menacé par ce qui se passe, par les manifestations de rue, par la contestation qui arrive jusque dans son propre foyer, puisque ses filles viennent contester effectivement le pouvoir en place, et ben il fait ce que font en général les gens qui appartiennent au système, c'est qu'ils veulent préserver à tout prix. Et moi, c'est comme ça que je m'explique en fait ce mouvement qu'il fait. Effectivement, au début, on a l'impression que ça va être un personnage complexe qui effectivement fait des choses qui avec répugnance, en fait, que ce nouveau poste qui l'oblige à envoyer des gens à la mort, il est content d'avoir une promotion, mais il n'est pas du tout content de ce qu'il doit faire. Il essaye même de résister tout au début du film, effectivement, de ne pas signer l'arrêt qu'il doit signer. Et on voit qu'il bascule très vite. Et l'autre personnage passionnant, c'est le personnage de la mère. Parce que la mère est absolument incroyable. Elle est à la fois aux côtés de son mari, en train d'essayer, de faire tenir le régime iranien, mais la cellule familiale. Et en même temps, elle est aussi vraiment du côté de ses filles. Elle fait ce basculement permanent et elle est vraiment comme un lien entre les deux. Mmh. Et je trouve qu'avec ces quatre personnages, on a comme une vision d'un pays qui est complètement déchiré entre un régime à soutenir absolument, un régime que peut-être on pourrait assouplir un petit peu, et puis des gens qui veulent tout faire éclater. Et on a beaucoup de discussions, puisque le film est évidemment beaucoup basé sur le dialogue et sur la parole. Et on a toutes ces idées-là qui viennent et qui convergent avec les jeunes filles qui portent la parole, on le suppose, de ces jeunes femmes, de ces jeunes hommes qui manifestent, avec le père qui vraiment représente plus le régime installé, les gens qui ne veulent rien changer, et la mère qui est peut-être les Iraniens, les Iraniennes entre les deux qui savent pas en fait, qui trouvent qui ont peur de ce que ça pourrait devenir, hein, puisque la mère par moment a des propos absolument invraisemblables pour justifier les violences, notamment sur l'amie des filles qu'elle soigne avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de patience. C'est dans une scène très jolie, et en même temps elle dit oui, enfin qu'est-ce qu'elle a fait pour en arriver là, enfin en gros c'est de sa faute si elle s'est fait tirer dessus dans les manifestations. Qu'est-ce qu'elle a été manifestée? Puis qu'est-ce qu'elles veulent, ces manifestantes? Enlever leur voile, et ça devient se promener toute nue dans la rue. Donc voilà, et je trouve que c'est vraiment dans la manière dont le réalisateur capte ces personnages, il y a quelque chose d'assez passionnant, d'assez... voilà, c'est pas juste une famille, évidemment, il y a un truc très très symbolique. Et c'est peut-être moi ce que je reproche au film, c'est que je trouve qu'au bout d'un moment, il devient un peu sur-symbolique, et notamment dans sa deuxième partie, que je trouve peut-être un petit peu plus caricatural par moment, un peu plus... On voit plus les ficelles d'écriture pour en arriver quelque part, et j'avoue que je trouve le film magistral, et en même temps, je le trouve un peu lourd, par moments, un peu étouffant, mais pas au sens où, évidemment, ce qui se passe est étouffant, mais aussi dans son écriture, dans son côté un peu systématique. Je ne sais pas ce que tu penses de ça, Thomas.
Si, si, moi, je me posais beaucoup de questions sur deux choses. Alors, effectivement, la première, tu en as parlé, c'est la façon dont le film se termine, dans des décors et dans un contexte qu'on ne va pas dévoiler, évidemment. Et puis, c'était aussi le fait de prendre prétexte, peut-être, de la disparition de cette arme pour mettre en scène une sorte de guerre intérieure. Et je trouvais qu'il y avait là quelque chose d'un peu démonstratif, de l'ordre du ressort scénaristique, un peu épais. Et pour autant, la démonstration est implacable. Donc je suis très partagé, parce que je suis, comme toi, très impressionné par le geste et le discours qui est porté par ce geste, et un petit peu mitigé sur les ficelles scénaristiques. Mais je t'avoue que je ne sais pas très bien comment m'en débrouiller, donc je pense que j'aime beaucoup le film en définitive.
Oui, je suis assez d'accord. Et puis, encore une fois, enfin, c'est un film qu'on se reçoit de manière assez violente aussi, parce qu'il dit aussi d'un régime qui arrive, mine de rien, à distiller cette horreur.
J'allais dire à bout de souffle, on allait dire deux choses qui ne sont pas du tout les mêmes. Moi, j'avais l'intuition ou le fol espoir, aller savoir que ce régime arrivait à bout de souffle d'une certaine façon et que ce film peut-être nous en disait quelque chose. Que c'était un film qui avait pour ambition, on veut secret, d'en précipiter la chute.
Je suis sûre que c'est l'ambition effectivement du réalisateur, et en même temps ce qu'il montre c'est que cette chute elle n'est pas si simple, puisque il arrive le régime s'insère jusque dans les foyers pour venir faire régner la terreur en fait. Et ça, je trouve que c'est toujours quelque chose de très fort quand on voit un régime qui arrive à venir parasiter à ce point-là. J'ai vu un film dernièrement, je fais juste un tout petit aparté, un film d'animation assez passionnant qui s'appelle Dreams with Putin. Et en fait, c'est un réalisateur et une réalisatrice qui sont allés chercher sur YouTube des témoignages de gens qui rêvent de Poutine et qui racontent les rêves qu'ils font avec Poutine, et donc ils mettent ça en image dans un style qui ressemble un peu à un style jeu vidéo très étrange, et qui viennent intercaler avec des vidéos de Poutine lui-même qui tient des propos absolument invraisemblables que vous pouvez tous voir effectivement sur YouTube. Enfin voilà, on le voit gravir des montagnes et tenir des propos complètement perchés. Et bref, ce que j'ai trouvé absolument passionnant dans ce film, et ça m'y fait penser, c'est qu'on voit à quel point un régime peut venir s'immiscer jusque dans les rêves des gens, et en fait dans ce qu'ils ont de plus intime. Et en fait, on s'endort la nuit et les rêves sont ceux qui sont dans le film en tout cas sont incroyables. Ce qu'ils disent et le symbolisme qu'ils ont est vraiment très très fort. Et là, je pense à ça sur le film de Rasoulov, où voilà, on va, c'est pas les rêves, mais c'est quand même dans l'intimité la plus intime, puisque ce père de famille qu'on nous présentait au départ comme plutôt aimant, sympathique, etc., il devient complètement fou, en fait, de voir son pouvoir et le pouvoir de l'État contesté.
Le débord dans l'intime et l'inconscient, effectivement, c'est la force funèbre des totalitarismes. Les graines du figuier sauvage, c'est donc d'ores et déjà en salle, et je vous propose dès à présent qu'on fasse une première pause musicale, et puis on se retrouve dans quelques instants pour continuer ce tour d'horizon, ma langue fourche, des sorties en salle.
petrified. Exhaust the fuel, we rinsed it dry. What is truth when your mind's a lie? What is truth when your mind's a lie? Face to face with all I've known, but I can't call these thoughts my own. Redemption so far beyond me, paranoid, alone and lonely.
De retour sur les ondes libertaires, 89.4, vous écoutez longtemps, je me suis couché de bonne heure. Thomas Fou au micro, en compagnie de Marie-Pauline Mollaret, de la rédaction d'Écran Noir. À l'instant, nous écoutions Mind's Alive, des Anglais de Hivis, cet extrait de leur troisième album, Guided Tour, à sortir le 18 octobre. Et nous reprenons le cours de notre tour d'horizon des sorties en salle. 9 novembre 2021. 26 trésors royaux du Dahomey, pillés par les troupes coloniales françaises à la fin du 19e siècle, vont quitter le musée du Quai Branly pour retourner au Bénin à la faveur d'un traité de restitution voté quelques mois plus tôt. Mathilde Diop, réalisatrice de Mille Soleils et Atlantique, a décidé donc de filmer les étapes de la dite restitution. Je me cite moi-même, sinon, qui le fera ? Dans ce film, Ours d'or à Berlin, Mathilde Diop, limpide dans son discours, n'assène pour autant rien, ni ne s'attache à clore les débats. Car ce discours est porté dans une alternance fructueuse d'un côté par une voix, retravaillée en post-production, non genrée, aux textures flirtantes avec le cinéma fantastique, disant un texte écrit avec l'auteur haïtien Mackenzie Orcel, de l'autre par une pluralité de paroles, celle d'étudiants de l'université d'Abomey-Calavi, composant un état des lieux d'une pensée coloniale foisonnante, riche d'autant de questions qu'il existe ici, deux points de vue. Un geste comme celui-ci, la restitution de 26 œuvres, parmi les quelques 7000 se trouvant aujourd'hui encore au Quai Branly, relève-t-il, outre de l'opération visant à soigner l'image de la France, du fait historique, de l'aumône ou de l'injure. Quel sens cela a-t-il d'exprimer une pensée décoloniale dans la langue du colon ? Le français, je le rappelle, est la langue officielle du Bénin. Le musée est-il une institution spécifiquement occidentale ? Quel rapport entre les patrimoines matériels et immatériels ? Que sont ces trésors devenus une fois érigés, à moins qu'ainsi ils n'aient plutôt été dévalués en œuvres d'art ? Et surtout, Mathilde Diop trouve-t-elle la forme juste, le dispositif adéquat, pour évoquer en moins de 70 minutes un sujet si vaste et si complexe ? Ce sont là quelques-unes des questions que je te pose, et tu serais bien poli, je trouve, de répondre à au moins une ou deux d'entre elles. Mais tu fais ce que tu veux, évidemment, Marie-Pauline, c'est à toi.
Mais je ne vais pas répondre aux questions. Mathilde Diop, elle ne répond pas aux questions, elle ne fait que poser des questions, elle nous renvoie chez nous avec des montagnes de questions dans la tête. Moi, j'ai trouvé son film absolument fabuleux pour ça, parce que Parce que oui, il y a toutes les questions qui sont posées, je veux dire, qui sont posées textuellement dans le film. Il y a toutes les questions que ça éveille. Et évidemment, ce film, il a gagné à Berlin. Je trouve ça très intéressant. Mais dans le jury, il y avait des gens de tous horizons. Et en tant que Français, on se le reçoit, je pense, encore plus violemment. Quand il y a cette étudiante qui dit « Regardez, je dois parler en français, donc je m'exprime dans la langue du colon. » Moi, j'avoue que ça m'a fait un truc assez violent, en fait. Parce que c'est des choses qu'on sait, c'est des choses qu'on connaît, mais c'est des choses qu'on ne vit pas et auxquelles on n'est pas confronté en permanence. Et là, de l'entendre dire comme ça et pas mal d'autres choses qui sont dites dans ces échanges, ouais, c'est vraiment un film très fort. Tu évoquais sa durée, je trouve que c'est une autre de ses qualités, c'est que c'est un film qui est extrêmement dense. Effectivement, ça dure 1h08 et on a l'impression que ça a duré beaucoup plus longtemps que ça, que ça a soulevé beaucoup de choses. Et j'ai pas l'impression que le film soit superficiel. Il fait ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire, encore une fois, ne pas répondre aux questions, mais les poser, et puis c'est comme semer des graines, hein, et c'est à nous derrière, et c'est à d'autres cinéastes et à d'autres artistes de s'emparer de la question et de continuer à y répondre. Tu mentionnais dans ton texte la composition du film, et je trouve aussi ça c'est passionnant, et puis ça vient vraiment en illustration de ce que le sentiment que j'ai moi depuis un moment, c'est que la forme documentaire est devenue une des formes les plus passionnantes du cinéma, et notamment du long métrage. Évidemment, dans le court, c'est un fait, mais y compris dans le long, qui arrive à faire des choses absolument extraordinaires. On est, pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, on est très très loin du reportage télé. Enfin,
on peut peut-être préciser la façon dont se déploie la forme du film, ou la façon dont se segmente son récit, si j'ose dire.
Oui, il y a une première partie qui est vraiment, si j'ose dire, purement documentaire, puisqu'on est en immersion avec le processus de restitution, l'observation des œuvres, leur emballage pour le voyage, l'arrivée.
Le référencement, alors j'ai été attentif aussi, voilà. Au fait qu'on estimait l'état des pièces.
Ah oui, alors ça c'est à l'arrivée, j'ai trouvé ça très très beau, parce qu'il y a il y a cette observation des œuvres, et en fait elles sont pas en très bon état, elles ont même pas été très bien conservées en fait. On se targue toujours, oui mais nous on a plus de moyens, c'est mieux que ça soit conservé dans des musées en France, c'est plus en sécurité, etc. Mais les œuvres, elles sont même pas en bon état, moi ça m'a beaucoup interrogée. Après j'y connais rien, peut-être que juste c'est des œuvres qui sont anciennes et qu'elles se seraient abîmées quoi qu'il arrive, mais j'ai trouvé ça très étrange.
En plus que la question est posée ou formulée à un moment donné dans le film, c'est-à-dire que... il est expliqué que la France hésitait ou a pu hésiter à restituer un certain nombre d'œuvres au titre qu'il fallait garantir leur sauvegarde et qu'il y avait cette crainte que le Bénin ne soit pas forcément à même en termes d'infrastructure, en termes de techniques de conservation, voilà, d'offrir un accueil suffisant aux œuvres et de les conserver suffisamment. Donc la question, elle est formulée par le film d'ailleurs.
Complètement, mais ça c'est, il me semble, un argument massu, tenu en général par les Occidentaux pour justifier que les œuvres des autres pays sont vachement mieux chez nous que chez eux. Et ça a peut-être pu être vrai, j'en sais rien, à une époque. Il me semble qu'aujourd'hui, c'est aussi à nous d'accompagner enfin le retour de ces œuvres et d'accompagner le fait qu'elles soient conservées dans les meilleures conditions possibles. Dire aussi que ça va les abîmer de voyager, c'est aussi assez ironique tout de même.
D'autant plus que des pièces, des œuvres qui circulent à la faveur d'expositions à l'international...
Voilà, ça arrive. Par ailleurs, si j'ai bien compris, un certain nombre de ces œuvres sont enfermées dans des boîtes, dans les coulisses, enfin dans les réserves plutôt du Quai Branly.
Voilà, il en resterait approximativement 7000.
Ouais.
Voilà, donc... qui n'auraient pas été restituées. Mais même si c'est un mot que n'aime pas beaucoup Mathilde Diop, j'avais lu un entretien à ce propos, elle n'aimait pas beaucoup le terme de restitution. Il y a aussi cette voix, donc, dont je parlais, cette voix off, qui vient se mêler au plan plus strictement documentaire, où on suit donc le trajet des œuvres du Quai Branly jusqu'au Bénin. Et ce sont des voix donc sur écran noir.
Et oui, puisque c'est censé être les œuvres qui parlent dans le noir où elles sont enfermées depuis 130 ans. C'est une idée magnifique, extrêmement poétique. Tout le texte qui est dit, tout ce qui est dit est très très beau. Je pense que c'est aussi ce qui fait la grande force du film, c'est de venir superposer des images vraiment documentaires très très classiques avec cette voix qui tout à coup prend une ampleur incroyable et qui vient bon, évidemment en contrepoint à ce qu'on voit et qui exprime des choses et qui aussi donne la parole aux premiers concernés. En fait, je pense que c'est vraiment le souci de Mathilde Diop, c'est de donner la parole aux gens qui sont vraiment concernés par cette histoire. Et l'idée de l'avoir donnée aux œuvres, c'est évidemment très symbolique.
Il y a quelque chose presque du film de Fantôme, on convoque les voix des disparus, de celles et ceux qui ne sont plus là pour témoigner. Je disais aussi sur cette émission que je vous recommande, donc La Bande des Quatre, hein, sur Microciné, la chaîne de Samir Arjoum. Je faisais le rapprochement aussi avec la conclusion de l'Atlantique, le précédent long métrage de Mathilde Diop, où là, c'était pas les voix, mais c'était les corps des disparus qui étaient convoqués dans la fiction. Donc il y a vraiment ce souci-là chez elle. Il y a quelque chose vraiment de l'ordre du film de fantôme, de spectre.
Complètement. Et c'est, je sais, une discussion qu'on a pu avoir souvent devant certains films, de la question du fantastique, de la manière dont il vient s'abriquer avec des récits qui se veulent plus naturalistes ou ici documentaires. Et là, je pense qu'on est d'accord que c'est une utilisation qui est vraiment incroyable, puisque ça apporte vraiment cette dimension-là, et c'est pas du tout gratuit. Cette idée du fantôme, c'est vraiment la manière d'aborder, je pense, la plus subtile de venir aborder ça. Et ce qui est dit par cette voix aussi, ça parle encore d'un autre endroit que les discussions et les échanges que tu citais entre les étudiants, qui sont l'autre grand moment fort du film.
Alors qui relève aussi du dispositif, je le précise, parce que ce sont des échanges qui ont été, si ce n'est dirigés, tout du moins décidés, préparés par Mathilde Diop. Donc on est toujours dans le dispositif, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la stricte observation documentaire, c'est-à-dire qu'elle a présidé à ces échanges.
Oui, je pense là encore avec la volonté de parler du bon endroit et de donner la parole, encore une fois, aux personnes qui sont les plus concernées. Sont les jeunes générations du Bénin et qui portent une multitude de questions, eux aussi, qui, je ne sais pas, me donnent l'impression de venir... transmettre, enfin il y a quelque chose de l'ordre du foisonnement de ce qui peut se passer peut-être de manière plus générale dans le pays et de manière plus générale dans tous les pays où la question se pose, et Dieu sait qu'il y en a malheureusement. C'est vraiment... Pardon, j'ai perdu le fil de ce que je disais.
Pardon, oui, tu évoquais la parole de ces étudiants.
La parole de ces étudiants qui va vraiment au-delà de ce moment. D'ailleurs, ils en parlent, est-ce que c'est anecdotique, est-ce que c'est un fait historique, etc. Mais ça va vraiment au-delà, et je pense que c'est l'autre grande idée de Mathilde Diop, d'avoir convoqué en fait ce moment de parole, parce qu'on peut voir les différentes questions qui vont bien au-delà d'une restitution, ou en tout cas d'œuvres d'art qui reviendraient au pays. Et on voit tout ce que ça convoque, et c'est vraiment impressionnant. On a parlé de la question de la langue déjà, on a parlé de la question économique, on a parlé de la question du détournement de ces œuvres, qui au départ n'étaient pas du tout des œuvres, c'était des objets de rituel. Et c'est devenu des œuvres d'art parce que les Occidentaux ont porté ce regard-là sur elles. Et ça, j'ai trouvé ça aussi assez passionnant, parce qu'il y a vraiment un moment quelqu'un qui dit, mais c'est pas dans un musée qu'il faut les mettre, il faut les remettre là, ou à leur place. Et tout de suite,
cette place, paradoxalement, a disparu précisément sous le joug des colons. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'un peu mélancolique dans le film. Il y a cette idée ou cette hypothèse que peut-être ces œuvres ne peuvent pas revenir parce que l'endroit n'est plus là, parce que le Dahomey a été pillé, détruit, parce que ses institutions, parce que son imaginaire, sa langue ont été détruits.
Oui, il y a cette idée-là, et puis il y a aussi l'idée que certaines des œuvres servaient pour des rituels vaudous, et il y a une réaction très jolie aussi d'une jeune fille tout de suite qui dit « Ah oui, mais moi si on les remet dans ce cadre-là, je n'ai pas envie d'aller les voir, elles vont me faire peur ». J'ai trouvé ça très beau en fait d'avoir aussi cette approche-là, et du coup il y a vraiment quelque chose qui n'est pas univoque en fait, il y a vraiment une multitude de points de vue très divers, et on sent toutes les portes d'entrée en fait, toutes les portes d'entrée couvrent cette question du retour des œuvres. Et je pense que c'est un film qui doit et s'aimer. En fait, c'est un film qui est le début de quelque chose, enfin pas forcément le début, mais en tout cas qui est au début d'un processus et qui doit emporter de nombreuses autres œuvres en écho, en prolongement, et c'est comme ça qu'on avance, j'imagine.
Merci beaucoup Dahomey de Mati Diop. C'est donc au cinéma depuis le 11 septembre. Et je vous propose, ah décidément aujourd'hui, que nous fassions une nouvelle courte pause musicale pour nous retrouver dans quelques instants et poursuivre notre tour d'horizon des actualités en salle. I'm knocking out teeth. I pop shit. They went pop. They bought Birkins. I bought stock. They still on a boat. I'm on a yacht. They taking shots. I'm taking spots. I see the shade. Then they get blocked. They see the chain. Then they went blind. Yeah. I know I'm different. I'm one of a kind. I took off on bitches and left them behind. How do you hate me if I'm on your mind? Sending me messages ain't Valentine. Bitches is messy, but I'm petty. Don't gotta edit. Check the Getty. I keep it real. I keep it sexy. Holler for backup before they address me. Clothes do all of that typing, but never once did I get pressed. It's obvious bitches obsessed. If it's fuck me, then we have a sex. If I pop back, then they go. Bitch, your time up. These bitches only hot on. Yeah. Bitches doing all that womp, 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 womp. Bitch, your time up. Why is you not clocking that? Doing shit for TikTok. Bitch, I'm really hip hop. They all know my shit hot. Ain't listen when your shit drop. All my diamonds dancing. I ain't need to make no TikTok. Bitch, your time up. Yeah, yeah. Ayy, hair long, money long, counting up for hours. I don't want no mini man, fuck me for some hours. Ayy, chains wet, I'm in love with money showers. Ayy, do do do, I love the sound of money counters. Ayy, boy, I'm a player, not a savior. Niggas in purses, I got every flavor. Take a picture, I post for the haters. Showing my ass like a dope entertainer. From the back, you can tell I'm from Texas. Yellow diamonds in my necklace. Just crossing another op off the checklist. Spanking these rap bitches, yeah, that's my fetish. He do what I tell him. Bitch, your time up. These bitches only hot on. Yeah. Bitches doing all that womp, 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 womp. Bitch, your time up. Why is you not clocking that? Doing shit for TikTok. Bitch, I'm really hip hop. They all know my shit hot. Ain't listen when your shit drop. All my diamonds dancing. I ain't need to make no TikTok. Bitch, your time up. Yeah, yeah. De retour sur les ondes de Radio Libertaire 89.4, vous écoutez toujours longtemps, je me suis couché de bonne heure, Thomas Fou au micro en compagnie de Marie-Pauline Mollaret. À l'instant, nous écoutions Boa de Megan Thee Stallion. J'ai une petite pensée pour les quadragénaires, car j'en fus un moi-même autrefois, avant de décider que j'avais à la fois 15 et 65 ans. Vous avez donc reconnu, peut-être aisément, si vous êtes attentif, dans le morceau qui a précédé, le sample d'un succès qui, la semaine prochaine, soufflera ses 20 bougies. Voilà, vous pouvez... nous appeler si vous voulez, si vous avez la bonne réponse, il n'y a rien à gagner. On poursuit donc le tour d'horizon des sorties en salle. Je n'ai pas le temps de mourir, Bertrand, dit l'héroïne de Ma vie, ma gueule de Sophie Filière, d'ores et déjà en salle. Ce temps-là, la cinéaste l'a hélas trouvé depuis en succombant l'an dernier à la maladie, quelques mois après avoir bouclé le tournage de ce qui sera donc son dernier film, et dont la finalisation a été confiée par Sophie Filière elle-même à ses enfants, Agathe et Adam Bonitzer, avec bien entendu le monteur François Kikré et ses collaborateurs. Chronique d'une dépression, celle de Barbery Bichette, la cinquantaine, alter ego assumé de la cinéaste et interprété ici par Agnès Jaoui, le film enchaîne les scènes drôlatiques mais souvent mêlées d'inquiétude. Autoportrait à la fois frontal et cartoonesque, nous dit Nicolas Marcadet dans les fiches du cinéma. Ce film posthume de Sophie Filière invente régulièrement avec grâce un langage ironique, touchant et singulier pour raconter la difficulté de se synchroniser avec le réel. Je précise qu'aujourd'hui, je ne cite que des articles des fiches du cinéma. C'est une façon de leur souhaiter un joyeux anniversaire, puisque les fiches du cinéma souhaitent ce mois-ci, sans tambour ni trompette, leurs 90 ans. J'en reviens à Ma vie, ma gueule. Sophie Filière, autrice notamment de Gentille, Arrêt-touche continue, un chat, était également, rendez-vous compte, co-scénariste de Nord, de Xavier Beauvois, Oublie-moi, de Noémie Lvovsky, Sombre, de Philippe Gandrieux, et Un homme, un vrai, des frères Larieux. Et j'ai pensé, J'ai pensé, pardon, en croisant brièvement dans le film la figure d'Emmanuel Salinger, découvert dans les premiers Des Pleuchins dès 1991 et La vie des morts, puis dans le premier film de Filière, Grande Petite, et retrouvé ensuite chez Lvovsky, à cette génération des auteurs et autrices apparus dans les années 90, un cinéma notamment de la parole, de l'entrechoquement des mots, un cinéma lacanien, pourrait-on dire, pour Des Pleuchins et Filière en premier lieu, cinéma de la psychanalyse et de la psychiatrie, pourquoi pas. Qu'est-il devenu ce cinéma-là, me suis-je demandé, non sans une certaine nostalgie. Quoi qu'il en soit, j'ai pris plaisir à le retrouver. Comment se débrouiller de son monologue interne, ne pas être débordé par lui et rester au contact des autres? C'est l'une des questions que pose le film, avec autour d'Agnès Jaoui, Angelina Verrette, Édouard Sulpice et Laurent Capelluto, et c'est d'ores et déjà en salle. Shall we go, Lady Bichette, comme il est dit dans le film, Marie-Pauline?
Oui, alors c'est un film... Moi, j'ai envie de prévenir les auditeurs et les auditrices qui iraient le voir. C'est un film qui résiste un peu. En tout cas, pour moi, ça a un peu résisté. J'ai trouvé le début... je trouvais le personnage un peu urticant au début, ce personnage de femme vieillissante qui se regarde dans les miroirs d'un air de désapprobation et même d'un air complètement, apitoyé, qui parle toute seule beaucoup pour un peu venir verbaliser ce qu'elle traverse, etc.
Dans les parcs, dans sa salle de bain.
Dans sa salle de bain.
Y compris en présence des autres.
Voilà, ses enfants ont honte d'elle. Enfin voilà, au début, je trouvais la barque vraiment chargée et je me disais, ça me passionnait pas trop, je trouvais ça trop. Et puis en fait, c'est le genre de film qui vous fait cette impression-là et puis qui vient, mais très subrepticement et très traîtreusement, vous saisir. Et en fait, au bout d'un moment, il s'est passé quelque chose, je ne sais pas trop quoi et je ne sais pas trop à quel moment, qui a complètement retourné en fait le sentiment que j'avais sur le film. Et il y a vraiment, l'émotion est venue me cueillir. Je pense que c'est plutôt dans le passage, le film est construit un peu en trois parties, et c'est vrai que la première partie est plus sur un mode un peu comédie, autodérision, donc avec ce personnage, voilà, qui évidemment s'assoit sur un banc dans son parc, et il y a sa fille qui est assise de l'autre côté et qui est en train de dire des horreurs sur elle. Enfin, vous voyez un peu ce genre de situation, ce genre de choses, ouais. Et on bascule tout à coup, enfin pas tout à coup, plutôt progressivement, dans quelque chose d'assumer de beaucoup plus mélancolique. Je pense que la deuxième partie est sûrement la partie la plus triste, entre guillemets, en tout cas la plus sombre. Et c'est là où ça devient vraiment absolument magnifique. Tu parlais des détails, des tout petits détails. Il y a une scène qui m'a vachement marqué, ces deux personnages qui attendent dans un hôpital. Voilà, un frère et une sœur, ils attendent. Puis il y a quelqu'un qui passe et qui demande... La touillette. Il y a quelqu'un qui demande, vous n'auriez pas une touillette par hasard? Donc rire dans la salle, parce que c'est incongru, il demande une touillette. Mais ce qui est drôle, c'est pas cette question, c'est la réponse. C'est le fait que le personnage sorte une touillette de sa poche et lui dit, si, tenez, j'en ai eu... Je sais plus comment il lui dit ça, mais de manière hyper naturelle, comme si on lui avait demandé du feu ou un stylo. Et c'est des petites choses comme ça, je trouve, qui font le cinéma de Sophie Filière, en tout cas sur ce film-là et sur ses films précédents, il me semble aussi. C'est des toutes petites choses complètement inattendues où un cinéaste peut-être plus paresseux, entre guillemets, se serait contenté de la première réplique et aurait fait rire le spectateur de manière un peu gratuite. Et en fait, là, du coup, je trouve ça touchant, en fait, d'avoir cette dans la continuité, c'est une toute petite chose. C'est bourré de petites choses comme ça. C'est un travail très ténu aussi sur l'ellipse. Par exemple, vous allez avoir une scène de retrouvailles hyper touchante qui va être suivie immédiatement d'une scène d'adieu assez rigolote. Et ça, le film avance comme ça. Il a l'air de pas raconter grand-chose et en fait c'est...
Oui, le fil du récit est assez ténu au début. C'est un enchaînement de scénettes. Ça raconte pas grand-chose au-delà de l'état psychologique et émotionnel du personnage. Ce qui est déjà beaucoup, mais effectivement, le film fait ce choix-là d'avoir une narration plutôt effilochée.
Exactement, ça raconte pas grand-chose avec des mots, mais ça raconte beaucoup de choses par des émotions et par des sentiments. Et le parcours du personnage est très beau. On pourrait se dire que oui, bon, une femme d'une cinquantaine d'années qui déprime, on a déjà vu ça raconté comme ça. Et en fait, non, c'est comme si tout à coup, il y avait un état de grâce presque permanent autour justement de ces situations dont tu citais. C'est vrai que c'est beaucoup un film de situation, de dialogue, d'enchaînement, encore une fois. Et c'est de là, je trouve, que naît un peu le côté à la fois loufoque et à la fois poétique du film, et puis extrêmement touchant.
Tu disais que le film n'en passait pas nécessairement par les mots, mais il y a par ailleurs une qualité dans l'écriture dialogue qui me frappe toujours, des choses qui a priori sont complètement incongrues. Moi, ce qui m'a marqué dans ce film-là, par exemple, c'est le moment où le personnage d'Agnès Jaoui dit à son docteur Quand il y a un rat, je pense à un trou, et quand il y a un trou, je pense à un rat, et c'est comme ça pour tout, docteur Fanfan, parce qu'elle appelle tout le monde docteur Fanfan ou Fanfan dans l'hôpital où elle est internée. Je sais pas pourquoi cette phrase-là me frappe comme m'avait frappé dans Aïe, sur un registre beaucoup plus drôlatique, la réplique qu'elle faisait dire à sa sœur Hélène Filière, qui disait à André Dussolier: vous savez, moi, de toute façon, quelle que soit la galaxie, je gerbe tout ce que je mange. Voilà, c'est des choses comme ça qui me traversent depuis 20 ans et dont je n'ai jamais complètement compris le sens, mais c'est pas grave, je m'en débrouille et je sais gré à Sophie Filière de me régaler, de m'avoir régalé de cette qualité d'écriture de l'incongru.
Oui, c'est le film est effectivement parsemé ou de petites phrases ou encore une fois de situations très étranges et qui moi me parlent beaucoup. Il y a un moment où elle parle d'un médecin en disant mais si, c'est celui qui a une barbe, je crois, elle dit celui qui a une barbe ou une moustache, je sais plus quoi. Quand le médecin arrive dans la chambre, le premier truc qu'il lui dit, c'est « Mais pourquoi vous avez dit que j'avais une barbe ou une moustache ? » Encore une fois, je me souviens plus lequel des deux c'est. Il y a des choses comme ça. Moi, je pourrais tout à fait faire ce genre de choses, réimaginer le visage des gens et dire « Mais si, c'est celui qui a les yeux bleus, pas du tout. » Enfin,
ouais, c'est voilà. Donc qualité d'écriture des dialogues, mais qui n'est pas une écriture de la punchline, ce qui est quand même assez appréciable.
Exactement.
Et reposant.
Exactement. C'est ce que je voulais signifier avec mon histoire de touillette, c'est que si on reste à la première réplique, je pense qu'on est sur ce côté punchline et que la suite vient dégoupiller ça. Attends. Et c'est comme ça pour tout, pour l'utilisation aussi des différents acteurs qui font des petites apparitions. Il y a Philippe Catherine, voilà, qui est une sorte de fil dans le film.
Et c'est un peu partout, entre les Jeux Olympiques, le cinéma de Sophie Filière, ses propres apparitions scéniques. Je m'attends à le croiser en bas de chez moi.
Ou en sortant de la radio,
qui sait. Ce serait une belle rencontre. Et très en phase avec le cinéma de Sophie Filière. Ma vie, ma gueule, c'est donc en salle depuis le 18 septembre. Et puis devinez quoi ? Alors deux choses. De votre côté, vous allez vous régaler, je l'espère, de notre prochaine pause musicale. On va faire une petite pause musicale. Et puis Marie-Pauline et moi, on va se prendre un petit croissant, un petit pain au chocolat, en profitant de la pause. Et puis on va penser à la suite des événements. Voilà. On fait donc une petite pause et on se retrouve dans quelques instants.
That's how it be happening. This for all my niggas trapping out of bed. Put my ladies on stage, ass clapping. Transaction, cause your mama need a mansion. Get cracking. Put them niggas in the casket. Can't forget the shit they did the yellow brother in. Shed so many tears, lost 100 friends. Every time I see them niggas, I'ma need that. Believe that. Label tryna give me feedback. Tell me bring the streets back. Fans said they want 2015 fans. Drop big fish, cause been weeks since. Damn. Tell me how you really feel. All I wanted was a couple mil. Make the city proud. Put it on for them crackers. Come and tear it down. What are you about? Money growing on trees, niggas hanging on palms, smoker spilling no weed. Code 304, she don't want a 16. Renegade on the blade, making tricks by your treats. No love, I'ma sleep with my weapon. Porsche 911, slide through the section. Gotta show my homies I'm on now. Both souls on the ground, never sold out. What you know about this? No glitz and glamour. Pole hanging out of my polo pajamas. Face getting ran, gotta watch for the camera. Before you get freaky, can't fuck with no random. These bitches is sneaky. If police come action, then you never see me. The ghetto will trap you, but I love it. Yeah, I love this shit. On Chris.
Nobody else but God, that's all we need, you understand what I'm saying? Everybody else is sour, you know what I'm saying? Everybody, family, turn your back on you, everything, you know what I'm talking about? But you know one thing, you got a soldier like me, I'm gonna stay solid, baby, to the bone, bro, so you know me, you understand what I'm saying? Off the top.
Yeah. I don't need your flowers, I'm living.
First time I seen $1 million, I squinted. Bro gave me a pack to help me hustle. It's a midget. Came a long way from the project buildings. That's where granny went when she left Louisiana, trying to dodge Jim Crow. But you can't escape the master stained glass windows. Got my vision from the past that I'm probably finna go to hell. But it don't matter, seen heaven on earth. Nah, I could've been up on the shirt. If I ain't get my shit together, go to work. I've been hitting the licks since flip verse flirts. Riding with the stick like witchcraft. Finding beauty in the darkness like Rembrandt. Everybody gang, gang, gang till it get bad. Do you hear me? Together was a mismatch. You ain't never finna win that.
Toujours sur Radio Libertaire 89.4 et vous écoutez toujours Longtemps je me suis couché de bonne heure, Thomas Fouet et Marie-Pauline Mollaré. Et à l'instant, nous écoutions Étouffé de Vince Staples. Je m'en excuse auprès de Marie-Pauline qui n'a pas eu le temps de finir son pain au chocolat. Ça attendra donc l'évocation du film suivant. Un gros morceau. En vérité, et qui s'envisage comme tel, bien que son auteur précise d'une part qu'il n'a pas, contrairement à ce que certains prétendent, passé 30 ans à préparer ce nouveau film, et d'autre part que celui-ci ne met pas un terme à sa carrière, il a a priori d'autres projets en tête. Je veux parler du Mégalopolis de Francis Ford Coppola, présenté en compétition officielle au dernier festival de Cannes, et qui est lui aussi d'ores et déjà en salle. De quoi est-il question ? Dans la mégalopole de New Rome, projection ou futurition, ou du moins double décadente du New York contemporain, César Catilina a le pouvoir d'arrêter le temps. Architecte en charge de l'urbanisme, il défend l'utopie d'une ville nouvelle, une société bâtie autour d'un métal aux propriétés mystérieuses, le mégalon, et se heurte dans ce projet au maire conservateur. Voici donc un film au budget colossal, autour de 120 millions de dollars, et au financement singulier, puisque Coppola y a investi une partie de ses économies personnelles. Pour la petite histoire, puisqu'elle n'augure en rien de la place que prendra ou non le film dans l'histoire, la grande cette fois, du cinéma, Mégalopolis a essuyé un échec cuisant au box-office états-unien, mais comment aurait-il pu en être autrement pour cet objet si singulier ? Et je cite Nicolas Marcadet, toujours, dans les fiches du cinéma, toujours, qui ce mois-ci fête leurs 90 ans, toujours. Expérimental, déceptif et sublime tout en même temps, Mégalopolis entre dans la légende, non pas par la porte du chef-d'œuvre, mais par celle du manifeste. Le film laisse pantois et perplexe, le geste, lui, est enthousiasmant de bout en bout. Peut-on, je reprends la parole, et faut-il ainsi distinguer le geste et le film? Celui-ci impressionne ou émeut-il peut-être à la seule condition de l'envisager à l'aune de l'œuvre de Coppola? Ce sont là quelques-unes des questions que je te pose, mais je me doute déjà de la réponse que tu vas y apporter. Je précise avant de te donner la parole qu'on retrouve au casting Adam Driver, Nathalie Emmanuel, Giancarlo Esposito, Shia LaBeouf, Aubrey Plaza, mais aussi John Voight et Dustin Hoffman, et quelques membres de la famille Coppola, le neveu Jason Schwartzman et la frangine Talia Shire. En effet, je crois savoir, Marie-Pauline, nous en avions parlé à Cannes, que le film t'a passablement agacé. Saurais-tu nous dire pourquoi ?
Alors, pourquoi le film m'a passablement agacé, ce qui est le cas? Il m'a épuisé. Je pense que le terme exact est que je suis sortie de là totalement lessivée et épuisée par un film que j'ai trouvé personnellement assez boursouflé. Alors déjà, il y a la voix off. Alors, les voix off, c'est pas toujours une bonne idée au cinéma. Et alors, celle-là, vraiment pas, parce qu'elle est assez ridicule, elle est sentencieuse du début à la fin, extrêmement envahissante, et qu'elle vient nous expliquer beaucoup de choses qu'au cas où on n'aurait pas compris, on a un petit peu l'impression que c'est une voix off qui a été rajoutée a posteriori, parce que quelqu'un s'est dit à un moment que personne n'allait rien comprendre au film.
Alors, je précise, parce que je pense que j'ai oublié de le citer, qu'il me semble que cette voix est celle de Laurence Fishburne.
C'est bien possible. Et en fait, il ne fallait pas, parce que déjà, les dialogues eux-mêmes étaient déjà très explicatifs et surexplicatifs et un petit peu sentencieux. Donc, en fait, ça fait un peu double emploi, de mon point de vue. Et j'avoue que j'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup de mal avec ça. Par ailleurs, je trouve qu'il ne fait pas grand-chose de son idée, qui n'est pas non plus d'une originalité confondante, de comparer notre civilisation à une Rome décadente, voilà, de manière une fois encore très appuyée, puisque les personnages, ils ont les noms, voilà, on a César, on a je ne sais plus qui, on a Rome, évidemment. Bon, certes, mais...
On a même une authentique scène de péplum, de course de char.
Scène de péplum, on a du cirque, enfin, on a un peu tout. Et moi, j'étais très, très perplexe de voir ce film, donc, qui est censé être un film un peu contemporain, en fait, de nos jours, même s'il existe dans l'esprit de Coppola depuis longtemps, qui m'a semblé assez poussiéreux, en fait. J'ai vraiment eu l'impression de voir un truc qu'on aurait pu faire il y a longtemps. Au niveau de l'histoire aussi, alors... je suis pas sûre que Coppola ait fait beaucoup de films extraordinairement... féministe, mais alors là...
Alors oui, il y a la question
alors, attention, là,
de l'écriture des personnages féminins.
Des personnages féminins qui sont... voilà, c'est soit des courtisanes, comme on dit au temps de Rome, je sais pas si on disait déjà ça, mais enfin bon, voilà, c'est des courtisanes, c'est des... il y a la Vierge, qui n'est pas vraiment vierge, spoil, alors c'est la cata. Et puis il y a quand même le personnage féminin principal qui est censé être fort, intelligent et tout ça, qui à un moment dit, il faut que je rentre faire le dîner. Alors, et j'avoue que ça faisait longtemps que j'avais pas vu une réplique comme ça dans un film. C'est un film qui se passe, j'allais dire de nos jours, non, puisque c'est censé se passer je sais pas quand, dans le futur. Bref, il y a quand même un certain nombre de trucs comme ça. Alors moi, je me suis beaucoup interrogée, parce qu'à Cannes, j'étais tellement... désemparée d'avoir eu l'impression d'assister à un ratage complet et de voir tout à coup un enthousiasme dithyrambique parfois de certains confrères. J'ai essayé d'aller lire...
De la presse européenne française à plus forte raison, ou qui en tout cas reconnaissait au film son ambition expérimentale notamment, la presse internationale était beaucoup plus sévère et puis on a vu ce que ça a donné au box-office.
Ouais, il y a eu aussi quand même, je me rappelle d'avoir lu un article, je ne sais plus lequel des grands journaux américains qui était aussi très admiratif. Et alors tu as lâché le mot. Tu as lâché le mot que je retrouve partout, c'est un film expérimental.
Alors, qui tente des choses, en tout cas, il y a un petit côté laboratoire.
Permettez-moi de tomber de ma chaise, de dire à mes collègues qu'ils devraient regarder du vrai cinéma expérimental, parce que franchement, j'aimerais bien qu'on m'explique d'où c'est expérimental. Alors oui, c'est très jaune, dans mon souvenir, l'image est assez jaune, effectivement. Enfin, c'est pas... en termes de mise en scène, ça, rien qui n'ait pas été fait dans des tonnes de clips auparavant. Enfin, c'est très très clippé, comme on dit. Je sais pas, il tente un truc démesuré, ça c'est sûr. Je suis pas du tout sûre que ce soit extraordinairement expérimental, mais moi je pense que c'est surtout qu'il s'est un peu laissé dépasser par son envie, par son... qui ait une immense envie de cinéma derrière tout ça, là, je ne lui dirai pas une seconde, c'est sûr, c'est évident, ça se voit à tous les plans, mais ça se voit vraiment trop, je pense. Et non, je suis bien en peine de voir cet aspect expérimental, mais que tu vas m'expliquer, Thomas.
Non, moi, je me contentais de rapporter... Merci de me jeter, comme le dit le président Macron, cette grenade dans les pieds. Non, que je te renvoie aussitôt, parce que je précise que, même si j'ai beaucoup de tendresse pour le film, le geste davantage que le film, sans doute, et même si j'ai très envie de le défendre, j'ai toutes les peines du monde à le mettre en discours. Et j'ai toutes les peines du monde aussi à justifier du caractère supposément expérimental de la chose. Le côté monumental du geste m'intéresse beaucoup plus que ses velléités expérimentales. Dont acte.
Voilà, là-dessus, on est d'accord, effectivement. Après, moi, j'ai pas envie de... Enfin, c'est pas un film qui m'a... Ou alors, je me suis un peu calmée depuis Cannes, je sais pas, mais c'est pas un film que j'ai envie de descendre à troupie, c'est pas un film honteux, c'est pas... C'est juste un film qui, moi, m'a vraiment, effectivement... épuisé, agacé.
Je me souviens de toi, très énervé à Cannes. Okay, tu en étais sorti très énervé.
Très énervé, parce que c'est très long, peut-être. Mais je... En même temps, j'ai envie de dire aux gens d'aller le voir parce que c'est quand même toujours beaucoup plus intéressant de se faire une idée, surtout sur un film comme ça. J'essaye de regarder là depuis qu'il est sorti. J'ai lu des choses très intéressantes. Un ami plutôt porté dans l'animation qui disait que c'était cartoonesque et qui avait une vision très de cet angle-là sur le film que je trouve effectivement intéressante. Moi, en y réfléchissant, je me suis dit que ça, c'était une espèce de mélange de deux cinéastes que je porte pas énormément dans mon cœur, ce qui explique sans doute que je suis pas.
J'allais te demander si tu avais un attachement au cinéma de Coppola, mais alors tu vas me citer deux autres cinéastes.
Ouais, alors moi ça me, c'est une sorte de mélange pour moi de Baz Luhrmann et de Damien Chazelle. et voilà, ça dit tout. Par ailleurs,
j'ai pensé un peu à Baz Luhrmann, effectivement.
Coppola, aussi. C'est pas complètement non, effectivement, c'est pas complètement un cinéaste que j'adore. Par ailleurs, ce que j'ai vu lui me semblait à chaque fois quand même beaucoup plus tenu que ça, peut-être moins prétentieux. Après, oui, c'est comme je le disais tout à l'heure, sur la question de la représentation des personnages féminins, sur l'écriture et tout, ça me semble pas être très éloigné. C'est quand même très gnangnan par moments. Hein. Il y a quand même des dialogues sur l'amour. Alors attention, j'ai noté une des phrases là. L'amour nous empêche d'avoir peur de l'avenir, et puis ils en font des caisses autour de ça. Et alors il faut voir aussi comment le film referme ses intrigues et comment il casse ses personnages de manière mais hyper classique sur la fin. Par ailleurs, tu nous le disais, moi je me suis beaucoup posé la question, ce personnage, il arrête le temps.
Absolument.
C'est génial, vous n'en rêvez pas tous, vous, de pouvoir arrêter le temps. Mais il n'en fait absolument rien dans le film.
Tu veux dire rien de ludique ?
Bah rien de pas grand-chose de concret, quoi.
Certes.
Ça m'a semblé être une espèce d'immense gadget qui donne lieu à une scène d'ouverture assez impressionnante, etc. Mais après, voilà, je sais pas. C'est un peu des choses qui m'ont traversé devant le film en me disant « Ah, mais ça va être génial, ce truc d'arrêter le temps. » J'étais déjà curieuse et hyper enthousiaste à me dire « Ah, mais comment il va utiliser ça dans son intrigue et tout ?»
Si ma mémoire est bonne, c'est d'ailleurs... L'extrait en avait été partagé quelques semaines en amont de la projection du film, et c'est d'ailleurs la scène d'ouverture. On voit effectivement le personnage suspendu... au-dessus du vide, je pense que c'est l'ouverture du film. Mm-mm. Peut-être que ma mémoire me fait défaut, et qui est une très très belle scène, je trouve. Mm-mm. Il y a des films qui n'arrivent pas toujours à se remettre de leurs promesses, de leur boîte à idées ou de leur ouverture. On vous laissera donc vous faire, chères auditrices, chers auditeurs, votre idée en salle, puisque Mégalopolis est d'ores et déjà en salle. Je vous propose, j'allais dire une avant-dernière pause musicale, et puis on va se retrouver pour évoquer le dernier film de cette table ronde. On se retrouve donc dans quelques instants.
Coucou, c'est moi. Je me suis dit que t'aimerais avoir de mes nouvelles. En plus, ça fait pile poil 4 ans, correct. Ne m'en veux pas si je suis pas venue à ton anniv, oublions ça. Tu sais, j'ai rencontré quelqu'un. Pas comme les autres. Depuis le jour où on s'est dit au revoir, je me suis vantée de ne plus avoir affaire à toi. Sans jamais avoir su te retrouver chez qui que ce soit. Mais bon, on a tourné la page, n'est-ce pas? J'ai croisé au concert de One Hundred X Point Never, et je me suis dit non, never again. Je t'avais même pas reconnu. Y'a plus rien qui me touche chez toi. Y'a plus rien d'innocent pour toi. Je veux pas te tenir la main. Je veux pas qu'on aille au zoo demain matin. Je veux pas te faire bander. Je veux pas qu'on partage tout ce qu'on va manger. Mais glisser sous la peau de chaque perso que j'effleure des yeux de mes bouquins débiles. Bon, je te laisse, je retrouvais mon copain. Ça fait une heure qu'il est en
On part deux jours sans Nico sur leurs acquis pour faire du poney ou du saut à l'élastique, je sais plus. Enfin, j'espère que toi ça va. À plus.
Sur Radio Libertaire, vous écoutez toujours longtemps, je me suis couché de bonne heure, et Thomas Fouet et Marie-Pauline Mollaret pour cette table ronde autour de l'actualité des sorties en salle qui va bientôt toucher à sa fin à l'instant. Nous écoutions JTM encore de Mickey, je le dis comme ça s'écrit, pas comme ça se chante, et nous en venons donc au dernier film de cette table ronde autour de laquelle nous sommes deux, voilà, je vous le rappelle. Donc voilà, suite et fin de ce tandem critique en 2021. La cinéaste indienne Payal Kapadia a présenté à la quinzaine des cinéastes son premier long métrage, Toute une nuit sans savoir. Un film qui mêlait documentaire et fiction, emprunté au cinétracte autant qu'à la poésie, où se mêlait une chronique de la révolte étudiante survenue en 2016 à New Delhi et de la répression policière qui s'était abattue sur celle-ci, aux lettres qu'une jeune femme adressait à son amoureux disparu. Elle opte ici, dans son nouveau film, une fiction cette fois All We Imagine as Light, pour une forme et un récit a priori plus classique, centré sur le portrait dans le Mumbai d'aujourd'hui de trois femmes, deux d'entre elles infirmières et colocataires, l'une courtisée par un médecin de son service et sans nouvelles d'un mari parti vivre à l'étranger, l'autre vit un amour clandestin avec un jeune garçon musulman, la troisième, quant à elle, est menacée d'être expropriée de son logement. Dans sa critique à paraître, dans le mensuel d'octobre des Fiches du cinéma, 90 ans ce mois-ci, bon anniversaire les Fiches, dont je vous livre ici la primeur, Patrick Florio y voit, je cite, un très grand film dont la belle et singulière texture de l'image fascine comme celle d'un tissu chatoyant et dont l'histoire d'amitié trouble par sa profondeur. Au casting, Kani Kousrouti, Divya Prabha et Shaya Kadam. As-tu, Marie-Pauline, toi aussi, été séduite, fascinée, irriguée, de quelque façon que ce soit, par le film de Kapadia?
Mais oui, quel beau film! Si vous devez en voir qu'un dans ce nom dont on a parlé ce matin.
Pour surtout
moi,
cette table ronde, en moi, comptant Dahomey de Mati Diop. Vous met la barre assez haut.
C'est très dur peut-être d'aller en voir deux, mais franchement, ouais, All We Imagine as Light, j'ai trouvé ça magnifique. Je n'avais pas vu son premier long que j'ai rattrapé depuis, que j'ai trouvé formidable aussi, mais dans un genre très différent. Et en même temps, on sent très bien comment elle a pu passer de l'un à l'autre. Puisque le documentaire imprègne quand même All We Imagine as Light, c'est une fiction, mais elle ne peut pas s'en empêcher. Je pense qu'il y a des séquences qui sont très clairement empruntées au documentaire, toute l'ouverture du film notamment. On a des témoignages aussi en voix off qui parlent de la ville. Puis il y a des scènes nocturnes assez magnifiques, il y a des scènes de ville. On est vraiment ancré, en tout cas dans toute la première partie du film, dans Mumbai. Et c'est très beau la manière dont la caméra caresse les lieux. La manière dont elle les dévoile, il y a des travelling sur des petites échoppes à un moment, et c'est très doux. C'est difficile, enfin ça paraît idiot, parce qu'un travelling c'est un travelling, mais il y a quelque chose de très doux dans le grain de l'image, et puis dans la manière dont elle le fait. Et voilà, et c'est un film, mais quel bonheur de voir un film qui est aussi ancré dans le contemporain, qui touche à autant de sujets, de questions vraiment profondes et de société, enfin qui dépasse l'Inde pour une partie d'entre elles, et qui le fait, alors en dépassant le sacro-saint constat, parce que moi j'ai un peu une obsession sur les films qui se contentent de constater les choses et puis qui s'arrêtent là, et c'est des films qui en général m'agacent un peu. Et alors là, non seulement on n'est pas dans cette idée-là, mais en plus on n'est même pas dans un... On n'est même pas dans un film qui assènerait ou qui montrerait du doigt en disant « Ah, regardez, quand même, le système de caste, c'est horrible » ou ceci, cela. Non, c'est tout le temps hyper ténu. On peut même, je pense, passer à côté de certaines choses si on ne fait pas trop attention. Voilà, si on ne connaît pas bien l'Inde non plus. Parce que cette jeune femme qui est amoureuse d'un garçon musulman, il faut un moment pour se dire « Ah oui, mais en fait, c'est problématique. » Parce que sur le coup, bah oui, bon, bah, très bien, ils n'auront pas la même religion. Enfin, j'étais en mode, bah oui, et ouais. Alors bon, évidemment, on est en Inde, c'est un problème. Il y a des couples qui se font assassiner pour ça. Enfin, c'est pas du tout anodin. Et tout est comme ça. Il y a la situation économique qui fait que les hommes doivent partir pour aller travailler ailleurs. Et,
alors, effectivement, le compagnon, le mari du premier personnage que j'évoquais est parti travailler en Allemagne, si je m'abuse.
Exactement, depuis longtemps. Et puis.
Nouvelle à l'exception d'un colis qu'elle reçoit un jour qui contient. Qu'est-ce que c'est déjà
un autocuiseur. Et voilà, croyez-le ou non, mais un autocuiseur, eh ben, ça peut devenir un objet presque inquiétant de film de genre. Il est inquiétant, cet autocuiseur. Ça devient une présence dans cet appartement. Elle a une manière comme ça d'interagir avec cet autocuiseur que j'ai trouvé très beau aussi parce qu'il n'y avait pas besoin de mots. Il y avait juste besoin de filmer cette situation et on sent tout ce qui... On sent et puis on devine petit à petit tout ce que ça signifie, ce signe de ce mari dont elle n'a pas de nouvelles depuis un an. Dont les relations avec lesquelles ça se sont effilochées. À un moment, elle dit peut-être qu'on n'avait juste plus rien à se dire. Et là aussi, c'est très beau parce qu'on comprend que ce mariage, c'est un mariage arrangé. Et néanmoins, apparemment plutôt heureux, mais lui, il est parti. Et on ne sait pas, du coup, elle ne sait pas, elle non plus, pourquoi elle n'a plus de nouvelles. Et évidemment, en parallèle, il y a cette histoire qui pourrait être possible avec ce médecin qui lui lit des poèmes, mais ben. Voilà, c'est pas possible en vrai. Et il y a plein de petites choses comme ça, vraiment par petites touches, le destin de ces trois femmes, la manière dont ça s'entrecroise, notamment dans la ville, et avec ensuite une ouverture et une envolée, on va au bord de la mer et dans une dernière partie de film qui vient ajouter au récit, comme je le disais tout à l'heure, ancré dans le contemporain, etc., une sorte d'ouverture aussi dans le possible. Moi, je vois vraiment ça comme tout à coup, bon, on a décrit, on a montré la vie de ces femmes, leur quotidien, etc., les questions qu'elles se posent. Et tout à coup, on leur offre une échappée, on leur offre un nouveau départ ou une autre existence ou un espoir. Enfin, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là dans cette fin.
Avec cette idée. Alors, le mot circule beaucoup, je ne veux pas être dans le cliché, et puis le film n'appuie pas là-dessus, mais avec cette idée d'une solution à travers l'amitié entre femmes. À travers la sororité, voilà, mais chose qui n'est pas appuyée par le film.
Non, c'est pas appuyé, mais c'est effectivement vraiment présent. Et ça peut parfois être un truc de scénario, et ça peut parfois être...
C'est ce que je voulais dire, voilà.
Exactement.
Merci de préciser ma pensée.
C'est devenu une idée qu'on porte comme un étendard, et qui est importante, parce qu'effectivement, la sororité, c'est pas moi qui vais vous dire que ça n'a pas d'importance, mais elle n'est pas toujours... elle n'existe pas toujours, il ne faut pas non plus voilà, être naïf. Et en tout cas, là, elle est profonde, elle est sincère, et elle n'est pas collée sur l'intrigue, on la ressent vraiment. Et du coup, oui, moi, je trouve que c'est un film... Alors là, c'est un jeu de mots un peu bête avec le titre, mais je le trouve extrêmement lumineux, alors que ce qu'il montre et ce qu'il raconte n'est pas forcément d'une gaieté incroyable. Et comme quoi, c'est possible. Et c'est un film que j'aurais envie de montrer à plein de cinéastes qui nous font des films dits sociaux, qui enfoncent la tête de leur personnage dans la terre et qui marchent dessus pour être sûr. Et alors là, il n'y a pas besoin. Vous voyez, on peut raconter des choses, on peut dire des choses sur le pays. C'est complètement dans la lignée du premier film qui évoquait déjà toutes ces questions. Et voilà, on sort de là, on a compris... On est révolté par certaines choses et en même temps on a une forme d'espoir et surtout on a l'espoir qu'il y a des générations de réalisatrices, de réalisateurs, d'artistes de manière générale et de jeunes gens de manière générale qui sont là et qui justement font que le constat il est dépassé puisqu'on essaye d'aller au-delà.
Et puis on a pu le constater à la semaine de la critique au comité court-métrage où nous avons travaillé ensemble pendant quelques années, comme je le disais en introduction. On a pu voir par moments comme ça bouillonner ou pointer le bout de son nez une sorte de vitalité renouvelée du cinéma indien dans le court-métrage. C'est sans doute ce qu'accompagne le film de Payal Kapadia. Voilà. All We Imagine As Light. C'est donc le premier coup de cœur, mais pas le dernier, spoiler alert, de Marie-Pauline Mollaret, et c'est à découvrir en salle à compter du 2 octobre. Car nous en venons à présent au dernier moment de cette émission, qui est aussi mon moment préféré, celui des coups de cœur. Je me tourne donc vers Marie-Pauline. Y a-t-il un enthousiasme que tu souhaiterais partager avec nos auditrices, auditeurs, un livre, un album, une expo, un candidat au titre en première ligue? Toute autre réponse qu'Arsenal étant jugée irrecevable, la recette d'un cocktail à base de gin pour notre ami Francis, qui nous écoute sans doute, ou qui nous écoutera en podcast, et pourquoi pas un film si tu aimes tant que ça. Je me tourne vers toi. De quoi veux-tu nous parler, Marie-Pauline ?
Alors, je ne vous parlerai pas de Saint-Étienne et de ses résultats cataclysmiques au foot.
8-0.
Voilà, 8-0. Merci de tourner le couteau dans la plaie. Voilà. Non, je vais vous parler d'un livre, une fois n'est pas coutume. Et alors, je vais être très très honnête avec vous, c'est un livre qui est écrit par quelqu'un que je connais, qui est une amie très chère. Ça s'appelle « Des montagnes de questions ». C'est écrit par Stéphanie Lux. Ce sont les éditions La Contre-Allée. Et les éditions La Contre-Allée ont créé il y a quelques années une formidable collection qui s'appelle « Contrebande », dans laquelle elle propose à des traductrices d'écrire des livres sur notamment leur métier. Donc c'est évidemment fascinant parce que c'est une façade qu'on connaît en général assez mal. Et l'idée principale derrière, j'imagine, la collection, mais derrière le livre de Stéphanie, c'est que, évidemment, on ne traduit pas de la même manière selon d'où on vient. Et donc le livre est entièrement entremêlé d'intimes. Stéphanie raconte son parcours, elle raconte comment elle en est venue à la traduction, elle raconte d'où elle vient, elle raconte aussi son rapport avec l'allemand, qui est la langue qu'elle traduit principalement. Elle traduit aussi un peu d'anglais, mais c'est l'allemand dans lequel elle vit, comme elle le dit, puisqu'elle vit à Berlin. Et voilà, et j'ai juste envie de vous lire un tout petit extrait du livre pour vous donner une petite idée. Et puis aussi, ça parle très très bien du métier de traducteur, et ça vous fait vraiment vraiment réfléchir quand vous lisez un livre qui a été traduit par cette couche supplémentaire que vient apporter la personne qui l'a traduite. Ce que je dois le plus souvent contredire, c'est cette croyance qu'en tant que traductrice, je m'efface derrière un texte. Je ne peux pas m'effacer. Je ne suis jamais invisible, et même, on ne voit que moi. Les mots que les lectrices lisent en traduction sont ceux que j'ai choisis. Certes, avec une trame donnée qui est là et affleure parfois à la surface. Mais je suis tout aussi peu invisible qu'une comédienne qui interprète un rôle avec tout ce qu'elle est.
Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous rappeler le titre du livre?
Le titre du livre.
Ma langue fourche une fois encore parce que je suis en train de prendre des notes. Hein. Je vous raconte un peu la petite cuisine interne de l'émission. Mais au moment où je te parle, je prends des notes. Alors, le titre du
livre. Alors, le titre du livre, ça s'appelle « Des montagnes de questions », référence à l'ami Bachung. Et c'est donc signé Stéphanie Lux aux éditions de La Contre-Allée. C'est un très beau livre qui est sorti il y a à peu près 15 jours. Donc, vous allez le trouver facilement en librairie.
Merci à toi, Marie-Pauline. Ce fut un plaisir d'échanger avec toi, ou plutôt de recueillir ta parole sur les films. C'était donc, chères auditrices, chers auditeurs, la rentrée de Longtemps je me suis couché de bonheur. Je vois que tu me fais des signes.
Eh ben
mais
oui,
absolument. On avait autre chose à vous signaler. Merci, Marie-Pauline.
Eh bien
alors,
oui.
Est-ce que tu veux nous le dire?
Parce que, profitons-en, je vais aussi vous recommander un film. Parce que, comme le dit Thomas, on est un peu là pour ça. Et cette fois-ci, c'est un court-métrage. Et c'est un court-métrage qui est co-réalisé par quelqu'un que vous connaissez bien, à qui je fais un petit coucou. C'est le court-métrage Les Petits Pois, qui est co-réalisé par Francis Gavel et Florentine Grelier. Et il se trouve que le film est en ce moment visible sur la plateforme de Bref. Donc, courez-y, allez voir le film.
Et voilà. J'avais vu passer l'information aussi, j'avais omis de la relayer. Merci à toi, Marie-Pauline. Et effectivement, on embrasse Francis, qui sera des nôtres dès le mois prochain. C'était donc, je vous le disais, la rentrée de Longtemps, je me suis couché de bonheur, une émission créée et proposée par Francis Gavel, présentée par Thomas Fouet, c'est moi, et réalisée par Erwan Charton. Nous nous retrouvons le mois prochain, samedi 26 octobre, si je ne m'abuse, même heure, pour vous parler de cinéma et vous passer de la musique. Depuis le temps, vous connaissez la formule, et nous nous quittons justement en musique avec un petit groupe de fringants sexagénaires qui vient de sortir un morceau. Le premier extrait est l'ouverture d'un album à sortir en novembre, le 1er novembre exactement. L'album s'appellera Songs of a Lost World, le morceau s'appelle Alone, et il s'agit, 16 ans après leur dernier album, du nouveau morceau de The Cure. Prenez soin de vous les amis, je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de Radio Libertaire.